peut se coacher, à échanger sur nos messages, à s'entraider, et c'est génial. Donc il y a Loïc, il y a Norbert, il y a Pascal, et il y a Fred. Voilà. Et c'est super parce qu'on échange avant les prédications, on essaie de s'apporter mutuellement, et c'est vraiment, en tout cas pour moi, une vraie bénédiction. J'espère pour eux aussi, mais pour moi en tout cas. Alors je ne vous dis pas ça pour, si c'est nul ce matin, dire c'est pas de ma faute, c'est les cinq. Hein. J'assume totalement. Non, je rigole. Mais c'est vraiment vous dire que c'est aussi un travail collectif et c'est un plaisir de réaliser ce travail. Alors percevoir Dieu. Au travers de ce fil rouge que je vous propose, un psaume de David magnifique, le psaume 34, et à un moment donné, ce verset 9 qui dit « Sentez, voyez combien l'Éternel est bon ». On va y revenir en détail, mais déjà ça nous donne une petite indication sur le thème. Et toutes les prédications précédentes ont pointé notre relation à Dieu comme cette verticalité, c'est-à-dire comment reconsidérer, comment recomprendre ce que Dieu a fait pour nous. Norbert a parlé du voile. Alors, elle marche. Pardon ? Non, c'est là-bas, non ? C'est l'ordinateur ? Voilà, bon, tu gères, Alexis ? Ok. Alors, Norbert nous a parlé, et lors des messages précédents, nous a parlé de cette position fantastique que nous avons. Et au travers de ce passage, on va repartir de là. Hébreux 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. » On a reparlé du voile ce matin. C'est fantastique. Voilà notre position actuelle de nouveau-né. Voilà ce voile qui est ouvert et notre accès à Dieu. Dans l'histoire biblique, dans l'histoire de l'humanité, cette relation à Dieu n'a pas du tout été celle-ci. Rappelons-nous, dans Éden, il y a une relation qui est quasi parfaite, une présence de Dieu, une communication entre l'homme et Dieu qui est permanente, qui est entière, qui est totale. La chute, abracadabra, la chute, et à ce moment-là, une séparation. L'impact fondamental de la chute, c'est bien cette séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact. Ce contact est restauré progressivement par un intermédiaire, une personne, un grand prêtre, qui, une fois par an, tremblant, passe derrière le voile, le lieu très saint, communique avec Dieu et délivre la parole de la part de l'Éternel. Donc il y a une progressivité, mais le contact avec Dieu est encore très loin. Et cette belle étape que nous célébrons, hein, tous les dimanches matins, le voile est déchiré. Et Norbert nous en a parlé longuement dimanche dernier. Et c'est quand même fantastique parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vit comme un retour à Éden. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on retrouve une capacité à communiquer avec Dieu, une capacité à percevoir Dieu de manière pleine et entière. Est-ce qu'on en est conscient ce matin ? Parce que vous savez, percevoir Dieu, et on va le voir, c'est pas qu'un concept, c'est pas que des belles idées, c'est vraiment le vivre. C'est vraiment l'intégrer, c'est vraiment le percevoir justement, c'est vraiment le capter. Et je crois que Paul parlera souvent de l'excellence de la révélation. Nous sommes dans une révélation excellente parce qu'on est dans un point de départ. Dieu ouvre grand ses bras et je dirais que l'intensité de la relation, elle va dépendre de nous presque, puisque Dieu est là. C'est quand même merveilleux et ça n'a pas été le cas. Je voudrais qu'on en soit bien conscient. Ça n'a pas été le cas souvent dans l'histoire. On est dans un temps béni, un temps de grâce. Et là, on peut même dire « Amen ». Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Et cette route nouvelle que Jésus a inaugurée, donc je le disais, nous rétablit potentiellement comme dans une configuration Éden. Et Paul parlera aussi de régénération. Vous savez, quand il a dit que nous avons été régénérés, Paul utilise un terme grec qui est fort, c'est « paligenasia », qui dit « restauré comme restauré à l'état d'origine ». Voilà ce qui s'est passé avec l'œuvre de Christ. La relation avec Dieu a été restaurée à l'état d'origine. Et quand on est régénéré personnellement, nous sommes comme restaurés à l'état d'origine. Vous avez déjà eu un ordinateur qui a buggé, qui a fait un virus, et à un moment donné, on vous propose de restaurer à l'état d'origine. Hein, Olivier, c'est arrivé souvent, ça. Eh bien, voilà, voilà ce que l'œuvre de Christ nous propose. Amen. Alors, on peut passer. On a tous eu un accès à l'évangile, peut-être un peu différent. Pascal n'est pas né de nouveau, de la même manière que Franck. Et je dirais que le préalable à l'évangile a pu être assez différent. Certains, comme Voltaire, l'ont intégré par la raison. Rappelez-vous, il faut forcément qu'il y ait un horloger par rapport à l'univers qui est déterminé par la raison, par la science, par le résultat d'une éducation. Peut-être que tu es enfant, fille de chrétien, et que naturellement, tu es venu à la foi, ou par une idée parmi tant d'autres, un idéal de vie, et principe même du christianisme. Notre accès à l'évangile, selon notre histoire, a pu être un peu différent. Mais la question à se poser, c'est de toute manière, quand nous sommes nés de nouveau, et là je parle évidemment aux croyants, quand nous sommes nés de nouveau, quelles que soient nos conceptions, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une rencontre. Il s'est passé une relation. Nous avons été percutés par la présence de Dieu. Alors vous voyez qu'entre le raisonnement, l'aspect intellectuel, la déduction qu'un Dieu existe, etc., et la rencontre, là, il se passe quelque chose d'autre. Et c'est ce niveau de relation que Dieu veut développer avec nous. C'est ce principe de rencontre, ce principe de partage. Et c'est tellement apparu ce matin dans les prières. Moi, j'ai beaucoup aimé la prière de Stéphane, qui parlait à Dieu comme il parlait à un ami. C'est ça, c'est beau. Combien nos prières souvent sont teintées de formalisme, de concepts. Mais Dieu est une personne. J'ai même, je crois que c'est Philippe qui disait qu'on avait la possibilité d'attrister Dieu. Dieu est une personne. Est-ce que moi, quand je parle à Virginie, je vais employer des termes grandiloquents ? C'est beau la simplicité. C'est beau. Dieu, je crois, attend de notre part quelque chose de simple, avec révérencieux évidemment, mais quelque chose qui touche au cœur. Et cette relation personnelle peut être impactée des fois par nos habitudes, et on le verra. On le verra que même des principes, nos bons principes de chrétien, de christianisme, peuvent parfois nous faire oublier que Dieu cherche une relation avec nous. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais ? On peut passer à la suite. Et j'aimerais juste vous lire cette belle phrase de Tozer, puisque Tozer, pour info, hein, les messages que nous préparons en ce moment, Tozer nous sert un peu de tremplin, hein, le livre « À la recherche de Dieu » que je vous conseille. Et j'ai trouvé que cette phrase était magnifique. « De nos jours, le scientifique a perdu Dieu au milieu des beautés de la création divine. » Et nous, les chrétiens, sommes en danger de perdre Dieu au sein des merveilles de sa parole. Nous avons presque oublié que Dieu est une personne et que comme tel, on peut entretenir des relations avec lui. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça m'a vraiment percuté. Les scientifiques sont, vous savez, plusieurs versets disent que la création crie que tu es là. Les scientifiques sont au milieu d'une démonstration évidente qu'il y a un Dieu et ils se perdent. Et nous, notre défi, on sait que Dieu existe, il n'y a pas de souci. Notre défi, eh bien, c'est de nous perdre. On a les merveilles de la parole comme l'image de la création. Mais d'oublier, de mettre des principes, d'élever au rang de principes tout ce qu'on va découvrir dans la parole et d'oublier qu'avant tout, Dieu cherche une relation. Dieu cherche une relation. Dieu nous cherche. Et soyons conscients qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu spirituel. C'est pas qu'une option ou une belle idée supplémentaire. L'ennemi n'a eu de cesse depuis Éden de travailler à notre séparation de Dieu. Et vous savez qu'en remettant en question la parole de Dieu, il savait très bien ce qu'allait provoquer la désobéissance. Il savait très bien qu'il allait avoir séparation. Ce qu'il a mal calculé, c'est la suite. Mais la conséquence immédiate du péché, il la connaissait à peu près. Sa stratégie, l'ennemi, voudra systématiquement travailler à notre séparation d'avec Dieu. C'est sa stratégie. Et il peut utiliser plein de techniques différentes. Plein de techniques différentes. En remettant en question la parole de Dieu. En ayant une théologie, on parle de théologie libérale. Vous voyez, on reste sur le texte, mais à un moment donné, on en oublie la puissance. Et on a parlé de voile ce matin. Antoine nous a dit que le Seigneur voulait enlever le voile de nos yeux, comme un voile, un nouveau voile, que l'ennemi voulait nous remettre sur les yeux, pour altérer, pour déprécier le regard et la perception que nous pouvons avoir de Dieu. Et alors, moi, c'est une question que je me suis posée en relisant, c'est quand est-ce que j'ai parlé à Dieu comme à une personne ? Quand est-ce que la dernière fois que j'ai prié en étant conscient que je parlais à quelqu'un ? Question intéressante, qui peut renouveler notre vie de prière et vraiment... Alors si on peut revenir sur le psaume, slide suivante. David, dans le psaume 34, dans l'introduction du psaume, il est très clairement identifié l'événement qui a suscité ce psaume. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et Sylviane a parlé de David tout à l'heure, autre petite confirmation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais David, il écrit ce psaume dans une situation très difficile. Il est pourchassé par Saul, et on en veut à sa vie. Et à un moment donné, il se réfugie chez les Philistins, au pays de Gath. Se réfugier chez ses anciens ennemis, c'est quand même pas garanti quand même. Je vous rappelle, Goliath a été tué, etc. On est chez les Philistins. Il fait confiance à Dieu, mais malgré tout ça, il développe une stratégie pour quand même sauver sa vie. Et il passe pour un fou. Il joue le fou devant le roi de Achis. Il passe pour un fou. Et du coup, il sort à peu près libre. David va écrire ce psaume. Et malgré sa stratégie qu'on peut considérer pas très classe, hein, qui manque un peu de foi, David va déclarer « Sentez, goûtez ou sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » David a déjà perçu la grâce de l'Éternel à ce moment-là. Parce que même si David a manqué de foi, il a senti que le Seigneur l'a sauvé de cette situation compliquée. Et alors, on peut se dire, ces verbes « sentir »,« voir », »,« goûter », c'est bizarre d'utiliser ces verbes pour décrire un être spirituel. C'est étonnant, non ? Ça vous étonne ou pas ? Ce sont des verbes normalement qu'on utilise pour une personne, pour du matériel, des verbes qui font appel au sensoriel, sentir, voir, entendre. Toute la Bible, et là je vous ai mis quelques exemples, mais toute la parole de Dieu est orientée vers une capacité à détecter comme une personne la présence de Dieu. Et je trouve que c'est beau parce que ça nous indique le type de relation et le niveau de relation que Dieu veut établir avec nous. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, ce matin, j'ai senti que l'Éternel était bon. Amen. J'ai goûté que l'Éternel était bon ce matin. J'ai vu que l'Éternel était bon. Et la situation de David, à ce moment-là, elle est quand même compliquée. Vous savez que David, il reçoit l'onction royale très tôt. Il a 10-11 ans à peu près, on pense. Et il est oint roi. Vous vous rappelez combien de temps après ? Il est déclaré roi, pardon. Vous vous rappelez combien de temps après ? 20 ans. Entre l'onction royale, la promesse, et la réalisation de cette promesse, 20 ans. Et David disait dans ce laps de temps, sentez, goûtez combien l'Éternel est bon. David qui était pourchassé, on en voulait à sa vie, etc. Donc ça veut dire que David avait développé une relation personnelle, une relation étroite, une relation proche, pas avec un concept, parce qu'on ne tient pas avec un concept, avec une personne. Et à la présence, il est dit que David était un homme selon son cœur, et je crois que c'est en partie ce niveau de relation que David avait établi qui pouvait nous indiquer, qui pouvait nous confirmer ce qui était dit. Alors, par quel moyen ? Parce que c'est bien beau tout ça. Nous devons être persuadés de la réalité du monde spirituel. nous devons être persuadés de la réalité du monde spirituel. C'est bête à dire, mais je n'ai pas trouvé mieux. Nettoyons nos lunettes spirituelles. Alors là, Virginie, souvent le matin, elle me dit, Franck, nettoie tes lunettes. Je ne sais pas si ceux qui ont des lunettes ont vous fait la remarque, si je suis le seul à avoir des lunettes sales. Merci chérie. Mais, important de nettoyer nos lunettes spirituelles. Parce qu'elles sont salies. Elles sont salies de concepts humains. Tout chrétien que nous sommes. Vous savez, Tozer dit qu'il y a une pression des sens dans notre société. C'est-à-dire tout ce qui est invisible est considéré non réel. Et on le verra dans le tableau un peu des réalités que j'ai fait après. Mais il faut savoir qu'on est touché par ça. La culture occidentale, le siècle des Lumières, etc., nous impacte, qu'on le veuille ou non. Et tout ça, ça salit nos lunettes. Et tout ça, ça altère notre perception de ce monde spirituel. Et je vois Elvis qui dit oui, je crois qu'en Afrique, il y a moins, en tout cas, ce voile, dans ce domaine en tout cas, il y a une conscience du monde spirituel peut-être plus développée que chez nous. Voilà. Et je pense qu'il nous faut redécouvrir. Alors, des fois, c'est mal orienté, attention, hein. Mais en tout cas, il y a une conscience. Principe de réalité. La réalité, si on en donne une définition, c'est ce qui existe en lui-même. C'est pas ce qui est visible, la réalité. C'est ce qui existe en soi. Est-ce que Dieu existe en soi? Oui ou non? Est-ce qu'il a besoin qu'on imagine qu'il existe pour exister? Dieu existe, c'est une réalité. Un être spirituel, mais une réalité. Et je crois que de décoder tout ça, c'est important parce que c'est quand même la pensée du monde qui déploie quand même tous ces raisonnements. Et c'est important de lutter contre parce que pour le chrétien, c'est déterminant. Nettoyons nos lunettes. On a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur ». C'est ça. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Pour que je vois, que je te vois. Et l'enjeu, il est là. Dieu est là. L'enjeu, c'est que nous le voyons. L'enjeu, c'est que nos lunettes soient nettoyées. Et c'est étonnant parce que, vous savez, quand Paul est percuté sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux ont été touchés, non, il me semble. Hein? Il est aveuglé. Et il retrouve la vue après. Paul, est-ce qu'on peut considérer qu'il ne connaissait pas les textes de l'époque? Il avait une parfaite connaissance des textes. On peut dire que, théologiquement, il était en place. Il a fallu que ses yeux s'ouvrent, comme tout à nouveau. Seul Christ peut faire ça. Seul Christ, à la nouvelle naissance, peut réouvrir nos yeux pour que nous le voyons tel qu'il est. On peut pas trouver Dieu que par cette nouvelle révélation. Comme si nous avions de nouveaux organes, notre cœur est doté de nouveaux yeux qui nous permettent de percevoir Dieu. Ensuite, alors ce tableau, juste pour décoder, le mensonge, le grand mensonge de notre société, c'est de mettre en opposition le visible et l'invisible, et de dire que ce qui est visible est réel, et donc le spirituel ne serait pas réel. Vous comprenez ce que je veux dire? La distinction, elle est ailleurs. Oui, le temporel et l'éternel, il y a une vraie différence. Le matériel, le spirituel, oui, il y a une différence. Il n'y a pas d'opposition, hein, mais il y a une différence. Le réel et l'imaginaire, oui. Oui, il y a des différences. Je suis clair là? C'est important parce que ça se joue là. De déclarer que le spirituel est réel, c'est le fondement de notre foi. Sinon, on adhère à un concept, au mieux à une association. Hein ? Alors, après, la foi, comment on active cette capacité à voir Dieu ? Eh bien, c'est la foi. La foi est l'activateur et l'incrédulité, l'inhibiteur. Alors, inhiber, c'est bloqué. Nous sommes appelés à avoir foi en Dieu. Et ce n'est pas de l'imagination, c'est juste de la confiance. Quand je parle à Dieu, comme une personne, je suis chrétien, mes yeux sont ouverts, j'active la capacité que Dieu me donne, que Dieu m'a donné à la nouvelle naissance. J'active, c'est comme si j'ouvrais mes yeux spirituels dont Dieu m'a doté. On doit réapprendre la réalité du monde invisible et spirituel, l'expérimenter au-delà d'une logique. Et il faut reconnaître, et moi je le dis d'abord pour moi, que parfois, eh bien, on oublie cette réalité. Et du coup, ce qui reste, c'est de beaux raisonnements, hein, que ça puisse toucher à la guérison, à plein de choses. On est prêt à avoir de super raisonnements pour refuser ce qu'on ne comprend pas. Et je crois que le Seigneur veut nous rééduquer là-dessus et nous réouvrir à ce monde spirituel, évidemment dans le cadre de la parole, mais qui peut-être qui est comme un nouvel équilibre qui se crée en nous pour que ces yeux spirituels soient activés. Rappelons-nous, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi agit sur ce qu'on ne voit pas. Il y a une prise de risque. Et en réfléchissant dans cette période, en lisant le livre notamment, j'ai vraiment été personnellement défié dans ma vie de prière. Et j'ai redécouvert comme quelque chose d'étonnant, quoi, de parler à Dieu comme une personne, c'est bête à dire, mais ça a renouvelé ma vie de prière. Et vraiment, je nous encourage à redécouvrir ça simplement, parce que c'est merveilleux. Et du coup, vous savez, quand vous passez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure à prier, et bien des fois, si on ne réalise pas que c'est une personne, qu'on dit des mots comme ça, ben, ça va être dur de tenir plus de 5 minutes, quoi, parce que du coup, on peut perdre du sens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? De parler comme je parle à un ami, comme je parle à quelqu'un, c'est plus pareil, là. Là, on a des sujets de conversation et notre vie de prière va reprendre comme un nouveau souffle. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Évidemment, encore beaucoup, beaucoup de progrès, mais c'est magnifique de revivre cette relation personnelle. Et Moïse, slide suivante, Moïse dira quelque chose à l'Éternel de magnifique, « Fais-moi voir ta gloire. » On a la sensation qu'à ce moment-là, regardez ce que dit l'Éternel à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Si ça, ce n'est pas de la personnalisation, si ça, ce n'est pas de la proximité, si ça, ce n'est pas une relation personnelle, je te connais par ton nom. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je trouve que là, on a une image de la relation que Dieu veut entretenir avec nous. Dieu nous connaît par notre nom. Et nous demandons à l'Éternel de se montrer tel qu'il est. Beau programme, non ? Et évidemment, on le vit dans ces temps de louange, pas que. On le vit dans nos vies personnelles. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux de développer cette relation. Et en conclusion, je dirais que cette relation à Dieu, elle a été permise, on l'a vu, par Christ. Elle a été permise parce que ce voile s'est ouvert. Cette nouvelle intensité de relation, elle dépend de l'œuvre accomplie. On n'a pas grand-chose à faire si ce n'est de jouir de cette relation, si ce n'est d'aller vers l'Éternel. Les bras de l'Éternel sont grands ouverts. Ce qui est déterminant, c'est est-ce que nous allons nous y jeter ? Est-ce que nous allons reconsidérer le monde spirituel d'une manière un peu nouvelle ? Est-ce que nous allons reconsidérer que Dieu nous veut personnellement ? On peut passer par la dernière slide. Et Jésus lui-même dira dans la prière sacerdotale, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Tiens, bizarre, le mot utilisé en grec, c'est ginosko là, qui veut dire percevoir entre autres. Bizarre. Voilà ce que Jésus prie, c'est sa dernière prière sacerdotale. C'est le verset 3, c'est au tout début de sa prière. Ce qui a été déterminant dans le ministère de Jésus, c'était ça, c'était que nous soyons en capacité de percevoir Dieu, comme tout à nouveau. Voilà, soyez bénis et vraiment que nous puissions vivre ces temps-là, parce que Dieu nous attend, quoi. Dieu nous attend.